Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à vous, bonsoir Jean-Marc.
Merci d'être là Jean-François. Il faut que j'explique une chose, c'est que dans la ligne de cœur, on a souvent par les WhatsApp qu'on reçoit des gens qui nous suggèrent, nous disant « vous pourriez quand même parler de ce titre, ce serait bien, ou parler de tout ça ». Quelqu'un un jour nous dit « mais on parle de violence ». Alors nous, dans la ligne de cœur, on parle en général peu de l'actualité, hein, puisque c'est une émission de témoignage, et c'est pas une émission dans laquelle on fait des débats ou des discussions, mais c'est plutôt une émission où les gens viennent témoigner. On a eu plusieurs témoignages la même semaine de femmes qui avaient été victimes de violences domestiques, de jeunes qui avait été harcelé à l'école, victime de violences aussi. Et quelqu'un nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas une fois une soirée ou quelque chose sur la non-violence? Il existe des associations exceptionnelles qui font des choses chez nous aussi, et il faut parler de non-violence dans cette période. Bah, ça tombe bien que vous soyez là ce soir, puisque vous serez à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne le 3 février, à l'invitation de l'association Amis pour la non-violence, qui organise cette manifestation avec le Centre pour l'action non-violente, le CENAC. Alors Jean-François, tous les gens qui écoutent cette émission vous connaissent bien sûr principalement parce que vous êtes un des membres du groupe et même le leader du groupe Imouvrini, hein. Même, c'est pas de ça dont on va parler ce soir. Mais c'est quand même bien qu'on remette l'église, je sais pas si on dit ça comme ça, au milieu du village, ou bien dans votre village et notre village. Mais Jean-François, on va parler de non-violence parce que vous êtes un chant de la non-violence et vous allez à la rencontre de ceux que l'on peut sensibiliser par rapport à cette non-violence. Comment vous vivez le fait qu'aujourd'hui on parle de tout sauf de non-violence pratiquement dans le monde, en tout cas chez nous, peut-être chez vous en Corse, en France ou en Suisse, hein.
C'est une bonne question que vous posez là. Ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Ça fait 8000 ans d'histoire, ouais. Que Sa Majesté Violence prend toute la place. Mmh. Et le problème de la violence, c'est que quand elle est là, on ne parle plus que d'elle. Elle est, non seulement elle est là, mais elle est sacralisée, elle est banalisée. Et elle nous fait croire qu'elle est fatale, inévitable, et mieux encore, quelle est notre nature, quelle est dans la nature de l'être humain et que cela est incontournable. Ce qui est un immense mensonge d'ailleurs, qu'il faut commencer par contredire, non pas parce que nous le décidons, non pas parce que c'est bien de contredire, mais parce que les neurosciences démontrent aujourd'hui que la violence, loin d'être notre nature, est une violation de notre nature. Le problème, c'est qu'elle a aujourd'hui la place qu'elle a, car elle fait partie des arguments marketing susceptibles de captiver nos attentions, notre temps de cerveau disponible. Il n'y a plus une émission, une fiction, un film dans lequel la violence est utilisée comme tête de gondole. Et forcément, elle captive nos temps de cerveau disponibles, ceux de nos enfants. L'industrie du divertissement fait du très très bon boulot pour ça d'ailleurs, pour nous captiver devant, et donc bien nous vivons ça comme un immense mensonge et surtout comme une immense intoxication de nos vies de tous les jours, qui nous laisse croire finalement que la violence est partout, et on est un petit peu, vous savez, quand on regarde les chaînes d'infos, on est un petit peu comme le mythe de Persée devant la méduse. Persée veut combattre la méduse, mais chaque fois qu'il regarde la méduse le transforme en statue de pierre. Et nous sommes un peu comme la statue de pierre devant une violence qui semble être omniprésente, envahir l'humanité entière, mais le monde ne serait plus que violent, ce qui est faux d'ailleurs, parce que bien évidemment il y a beaucoup de violence et toujours trop de violence, mais en même temps il y a dans le monde des millions et des millions d'actes d'amour, de respect, de fraternité, de compassion. Donc il s'agit simplement de prendre conscience, de désobéir à ce diktat. La violence n'est pas une fatalité, la violence n'est pas sacralisée, n'est pas banalisée, n'est pas à banaliser comme on le fait tous les jours. La violence est une détresse du système, elle est un argument, violence sells, la violence fait vendre. La violence est un marché parfaitement organisé. Par contre, la non-violence est une illustre inconnue dont on parle à peine depuis 150 ans. Une illustre inconnue dont on croit tout savoir, bien évidemment, et que l'on réduit bien volontiers à une histoire de bisounours, de Père Noël, un petit truc tout juste bon à amuser les enfants, à leur apprendre à obéir, à être sage, à être contre la violence, ce qui est faux d'ailleurs. Parce que la non-violence est beaucoup de choses, sauf quelque chose qu'on limiterait à une force contre la violence, pas du tout. La non-violence est beaucoup plus exigeante. C'est une reconnexion à notre nature, c'est une méthode d'action, c'est une méthode d'analyse. Ce n'est pas une berceuse, ce n'est pas une lettre au Père Noël. C'est beaucoup d'insolence, c'est une manière de désobéir, c'est une manière d'être ferme avec la violence et ferme avec les causes de la violence en lui disant tu es une belle énergie. Il faut de l'énergie pour la violence, effectivement. Et il ne s'agit pas de te condamner, il s'agit de te recycler, de te transformer, car nous pouvons et nous savons beaucoup mieux faire.
C'est magnifique cette image de recyclage, de transformation de la violence. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle ? Comment êtes-vous arrivé à cette sensibilité particulière que vous avez par rapport à la non-violence ?
Je viens de Corse, déjà. Un Corse qui parle de non-violence, c'est un peu canal inattendu, dans l'inconscient collectif, en tout cas, quand je regarde ça depuis la France. Mais j'ai surtout grandi dans un petit village et dans le modèle rural du monde, qu'il soit Corse, Africain, Suisse ou autre. La règle, c'est la mutualité, la règle, c'est la coopération. La règle, c'est l'empathie, qui est le levain de la non-violence. J'ai entendu très tôt dans mon village les plus anciens dire « mieux vaut mourir plutôt que tuer ». Mieux vaut mourir plutôt que tuer. Donc la vie, c'est sacré. Et le meurtre n'est pas négociable. On ne porte pas atteinte à la vie de l'autre, à l'intégrité de l'autre, à la dignité de l'autre. Donc ça vous donne une colonne vertébrale extrêmement solide. Et ça vous équipe mieux, pour être connecté à notre vraie nature. Car la non-violence est notre nature. Les neurosciences le prouvent aujourd'hui et le démontrent. Donc ça nous donne un équipement de vie. Les gens de mon village ne prononçaient jamais le mot d'empathie, vous voyez. J'ai jamais entendu le mot d'empathie dans mon enfance, dans mon village. Par contre, ils l'incarnaient. Ils la pratiquaient. Et ils disaient au quotidien « je vais mieux quand tout le monde va mieux ». C'est une révolution politique.
Absolument.
Une révolution altruistique. Bon, et donc tout ça vous équipe beaucoup mieux, et en grandissant, en étant adolescent et en commençant par lire tous les grands penseurs de la non-violence, de Tolstoï à Jean Sharp, à Jean-Marie Muller, et à tant d'autres, à toutes les expériences non-violentes dans le monde, de Gandhi à Martin Luther King, à Rosa Parks, et puis il y a d'autres choses plus récentes comme la chute du mur de Berlin, qui est une immense victoire des mouvements non violents, sans une goutte de sang. Je vous jure que vous découvrez un univers que l'école ne vous enseigne pas, dont on ne vous parle pas, mais qui a une force politique au sens noble du terme, une force qui est insoupçonnée, insoupçonnable, et vous avez le sentiment que c'est un vaccin qu'il est urgent non seulement de cultiver en soi, mais de partager avec le plus grand nombre. Et c'est ce qui donne envie de le faire dans la musique qui est la nôtre, dans les concerts qui sont les nôtres, mais bien plus encore dans des conférences et dans différents protocoles d'action que nous avons avec une petite ONG qui est née en Corse, qui s'appelle Oumani, et qui se passionne, pour ceux que vous évoquiez en tout début d'entretien, non pas à la pathogénèse, c'est-à-dire à ceux qui s'intéressent uniquement à la maladie, mais à la bonne santé. Eh bien, aujourd'hui, les outils de la non-violence, l'analyse de la non-violence, les méthodes de la non-violence sont autant d'ingrédients, autant d'outils, autant de boussoles qui nous permettent justement de nous construire en bonne santé, en bon citoyen, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, où l'injustice est partout et où lutter contre l'injustice, justement, fait partie de nos missions citoyennes à tous et à chacun.
Jean-François, la non-violence, c'est dans notre nature, c'est ce que vous dites, effectivement, et les neurosciences le prouvent. Est-ce que vous pensez que la non-violence, ça peut s'apprendre ?
Bien sûr, ça s'apprend, bien évidemment. Ça s'apprend, ça se cultive. Si nous avons en nous, dans notre disque dur, ce que les neurosciences confirment, c'est-à-dire un disque dur empathique, altruistique, coopératif. Nous sommes des êtres doués pour la solidarité, pour la coopération, pour la compassion, pour l'empathie. Nous sommes, quand je dis nous sommes Wi-Fi et Bluetooth depuis des millénaires, oui. Nous ressentons la souffrance des autres. Nous ressentons la souffrance des autres. Pas seulement avec l'empathie fermée qui fait que je ressens la souffrance de ma famille, de ma mère, de mon père ou de mon enfant, mais nous avons une empathie totalement ouverte. Je ressens la souffrance de gens que je ne connais pas et qui vivent à des milliers de kilomètres de moi et dont je vois juste le visage sur un écran. Je ressens de l'empathie. Bon. Mais on peut bien évidemment désempathiser. On peut... L'outil de ce qui nous permet justement de ressentir l'empathie sont ces merveilleuses neurones miroirs que nous avons tous. Hein, ces neurones miroirs qui ont été découvertes par des neuroscientifiques italiens qui nous permettent de percevoir la souffrance de l'autre. Mais on peut éteindre nos neurones miroirs, on peut désempathiser. D'accord. Donc on peut désapprendre l'empathie. Et quand on désapprend l'empathie, bah forcément, ça rend beaucoup plus facile. L'insulte, les coups, la brutalité infligée à l'autre, des traitements, des comportements, des mots, etc. Ça rend beaucoup plus facile. Donc on peut nous désapprendre l'empathie. Il s'agit donc d'être d'abord conscient de ça. Hein. Je ne vais pas me laisser me désapprendre ce qui est ma propre nature. Par contre, je vais muscler mon empathie. Je vais muscler ma capacité à être fort dans le conflit, par exemple. Être éduqué pour le conflit. Le conflit, ce n'est pas la guerre. Le conflit dans la non-violence, c'est une chance. Nous allons devenir encore plus frères dans le conflit. Nous allons devenir encore plus ensemble dans notre capacité à surmonter la difficulté momentanée qui est la nôtre. Nous avons des conflits, nous en aurons toujours dans nos familles, dans nos vies, dans nos entreprises, etc. Donc la non-violence, ça s'apprend, ça se cultive, ça s'enseigne. Malheureusement, nous avons un retard considérable de ce point de vue-là. Nous avons un retard considérable. Il s'agit de le rattraper. Il s'agit de justement de dans ce monde qui désempathise, dans ce monde où une malbouffe verbale, mentale, comportementale nous est infligée à tous tous les jours, dans nos salles à manger, au volant de nos voitures, sur nos écrans, etc. Il s'agit d'être conscient de ça et de dire, mais nous pouvons beaucoup mieux faire. Nous sommes beaucoup, nous avons un équipement, nous avons des outils que nous n'avions pas il y a des décennies. Et ces outils, ils sont extrêmement précieux aujourd'hui pour assurer quoi? Bah, déjà dans les mots que l'on emploie, vous voyez, on pratique l'hygiène des mains. Bien, il faut pratiquer l'hygiène des mots.
Ouais.
Et l'hygiène des mots, ça s'appelle la communication non violente, qui a été conceptualisé par Marshall Rosenberg, donc qui dit « commence par laver les mots que tu emploies ». Parce que les mots peuvent être extrêmement toxiques. Vous savez, tous les féminicides du monde, ça commence par des mots. Hein.
Oui.
Tous les infanticides du monde commencent par des mots. C'est un mot, des mots, et puis les mots appellent aux choses. Eh bien justement, cette hygiène des mots que l'on pratique au quotidien, il est une manière déjà de commencer à assainir et à travailler sur la qualité de nos comportements, de nos relations, de la gestion de nos émotions, de la gestion de nos conflits, de notre capacité à être intelligent avec nos émotions, l'intelligence émotionnelle qui est avec la communication non violente un des ingrédients, un des outils essentiels de la non-violence.
Merci infiniment d'être venu ce soir, Jean-François Bernardini, pour nous parler de non-violence. C'était important qu'on le fasse et vous serez là donc le 3 février à la Haute École de Travail Social et de la Santé à Lausanne avec ce thème pour la journée. La non-violence, ça s'apprend, mais c'est pas pour les spécialistes. Hein. Enfin oui, peut-être s'ils ont envie, mais c'est pour le tout public. Il y aura des ateliers, des conférences, de sensibilisation autour de la coopération, du vivre ensemble, des émotions. Et il y aura même une exposition du CENAC, ni Hérisson ni Paillasson. C'est l'association Amis pour la non-violence qui organise cette manifestation. Et merci à eux de nous avoir signalé cela. Et merci à vous d'être venus. Vous serez donc en Suisse le 3 février, mais vous connaissez bien la Suisse, hein, Jean-François, vous y venez régulièrement.
Tout à fait. Vous faites bien de préciser que c'est ouvert à tout le monde.
Oui.
Et je peux vous dire qu'après avoir rencontré plus de 105 000 juniors et adultes qui pendant 2h30 sont capables de vous écouter sans toucher un portable, je peux vous dire que ce sont des moments qui sont extrêmement enrichissants et qui nous reconnectent avec nous-mêmes, car le projet c'est justement de nous reconnecter avec notre véritable nature. Donc merci à nos amis d'organiser ce moment-là, merci aux autres conférenciers de venir enrichir cette réflexion collective et cette quête collective de gens qui simplement cherchent à mieux faire dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur environnement. Et merci à la Suisse, bien évidemment, où nous venons souvent avec Timo Vrini et où nous tissons à la fois des amitiés, des complicités qui sont précieuses. Et je serai avec grand, grand plaisir à Lausanne ce 3 février prochain.
Merci beaucoup d'être venu dans la ligne de cœur, Jean-François. À bientôt.
Merci beaucoup à vous. Bonsoir. Merci.